Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Si vous avez suivi la première heure d'émission, on va vous entraîner dans d'autres contrées et vous allez vous faire un grand plaisir en écoutant un scientifique aventurier, Jean-Louis Etienne, qui a franchi des barrières de glace et le froid extrême en bateau, en ballon et surtout à pied. Lui qui se prépare à une nouvelle aventure à bord de Polarpod afin d'explorer les profondeurs de l'océan Austral. Il va évidemment nous parler des pôles, le pôle Nord, le pôle Sud, l'Arctique, l'Antarctique, avec toujours une démarche formidable, comprendre l'homme face à ses environnements, le récit de sa vie, ses nouvelles missions. Il les partage avec nous, Julie, sur Europe 1. Et n'hésitez pas à échanger avec lui. Vous avez Jean-Louis Etienne pour vous pendant une heure, alors profitez-en.
Vous appelez le 3921, vous composez le numéro et on vous rappelle.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et avec Jean-Louis Etienne. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous qui avez beaucoup d'actualités à évoquer aujourd'hui, notamment à paraître dans quelques jours Pôle Nord, Pôle Sud aux éditions Bayard, explorateur, médecin, écrivain. Vous nous racontez toujours avec vitalité les régions polaires que vous avez explorées, qui jouent un rôle fondamental pour la Terre et pour le climat. Voilà pourquoi, pour vous, leur exploration demeure capitale, Jean-Louis Etienne.
Oui, vous savez, la machine climatique, pour faire simple, c'est l'échange entre la chaleur des tropiques, il fait toujours chaud sous les tropiques, et le froid des pôles. Mmh. Et la Terre, elle a deux fluides pour faire ces échanges de chaleur. D'une part, les courants atmosphériques, l'air. Petit à petit, l'air chaud monte, puis redescend dans les régions froides, etc. Ça, ce sont des mouvements rapides qui conditionnent ce qu'on appelle la météo. On vient de l'entendre à l'heure actuelle, ce sont des mouvements rapides, et puis les océans. Les océans qui transportent des grandes quantités de chaleur, comme par exemple le Gulf Stream, qui amène toute cette chaleur qui est accumulée sur la Caraïbe vers le nord. Mm-hmm. Et donc ça, ce sont des mouvements lents de transfert de chaleur qui sont plus le support du climat. Et ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, c'est que, surtout en Arctique, dans le Grand Nord, ça se réchauffe, mais démesurément par rapport aux autres régions. Si par exemple, nous, on parle de 1 degré de réchauffement en un siècle, au pôle Nord, dans l'Arctique, on parle à certains endroits de 4 degrés. Il y a un phénomène d'emballement, c'est-à-dire c'est une région qui était, et qui est toujours quand même très blanche par la glace qu'il y a sur l'océan Arctique du pôle Nord, et tout autour, la neige. Mais avec le réchauffement climatique, la neige apparaît plus tard, disparaît plus tôt, donc il y a des zones sombres, en fait, hein, l'eau sombre, l'eau qui capte le rayonnement solaire et qui accélère ce réchauffement. Donc le phénomène s'emballe un peu dans le Nord.
Et votre connaissance des pôles vous permet de répondre aux climato-sceptiques et aux propos notamment de Donald Trump en disant que ce n'est pas une valeur populaire de discussion, car on confond souvent d'ailleurs météo et climat, mais que c'est une mesure scientifiquement précise, prouvée. Et voilà l'écart que vous venez de nous lire, nous dire, Jean-Louis Etienne, entre ces 4 degrés au pôle et ce degré de plus ressenti en un siècle est parlant.
Oui, vous avez évoqué Donald Trump, il faut tout de suite l'arrêter. C'est-à-dire que Donald Trump, il dit qu'il fait froid à Washington, à New York, à Montréal, mais c'est tous les hivers.
La neige existe encore. Oui.
Tous les hivers, il fait froid, c'est du climat
continental.
Nous le
disons aussi en France,
bien sûr. Et il oublie de dire une chose, c'est qu'au même moment, en Australie, en Afrique du Sud, en Asie du Sud-Est, il y a des canicules énormes, il y a des étendues de sécheresse qui sont catastrophiques, il y a un manque d'eau en Afrique du Sud, au sud de l'Afrique du Sud, au Cap, qui est rien. Donc, il faut bien comprendre que c'est une valeur moyenne. Un degré de réchauffement moyen en un siècle, ça ne se perçoit pas. Quand deux personnes vont, je dis toujours cet exemple parce qu'il est parlant, quand deux personnes vont le matin acheter la baguette de pain, se retrouvent à la boulangerie, salut, ça va, t'as vu le temps qu'il fait. Les deux mamelles de la conversation, la santé et le temps qu'il fait. Mmh. Et donc, si c'est au mois de juin, par exemple, et qu'il fait frais ce matin-là, il y en a un qui commence à dire à l'autre, et toi, tu y crois au réchauffement climatique ? T'as vu comment on se caille ? Et puis, c'est l'été qui arrive, voilà. Ça ne se perçoit pas, c'est une erreur. On perçoit le temps qui fait, la météo, mais pas le changement climatique.
Parce qu'il faut, comme vous êtes, des vigies, des sentinelles aussi, qui sillonnent le monde et qui sont capables de nous dire que c'est l'équilibre global qui est perturbé.
Oui, c'est l'équilibre global. Il faut comprendre que l'excès de chaleur qui est dû au réchauffement climatique, 93%, donc c'est énorme, est absorbé par l'océan.
Par l'océan, oui.
On est en train de perturber le cycle de l'océan, si vous voulez. À des endroits, il y a des sécheresses énormes qui s'accumulent. À d'autres endroits, et nous les connaissons, le phénomène Sevenol, par exemple. Mm-hmm. Le phénomène Sevenol, c'est des pluies qui sont tous les ans, en septembre en général, parce que la Méditerranée est très chaude à la fin de l'été, elle s'évapore en septembre. Il y a un coup de vent d'est qui amène toute cette humidité sur les Cévennes, donc il y a précipitations, et voilà. mais on voit que la valeur des précipitations augmente, et puis ça se décolle dans le temps, parce que la Méditerranée est de plus en plus chaude, c'est un exemple.
Et ce qui est formidable avec vous, c'est que Jean-Louis Etienne, on va pouvoir évoquer tout un tas de sujets, et j'enjoins vraiment les auditeurs à le faire, c'est que vous êtes au carrefour pour avoir sillonné notamment ces pôles de tant de problématiques, le plastique évidemment, oui. L'énergie aussi, hein, oui. Et notre rapport à l'énergie, dans le sens encore une fois de tous ces instruments qui, si on en enlève un, dérèglent la mécanique entière. Voilà. Et donc vous... là, vous êtes acteur, vous, d'un tout, et vous êtes nos yeux aussi.
Oui. Juste pour revenir au pôle, mais changeons de pôle, je viens d'évoquer le pôle Nord, oui. Le pôle Sud. J'ai traversé l'Antarctique, c'est le pôle Sud, en 89-90. Les 600 premiers kilomètres de glace flottante, de plateforme glaciaire sur laquelle nous avons sillonné avec nos chiens, ont disparu. C'est une fois en 2000, une fois en 2002, c'est les satellites qui nous montrent ça. C'est d'énormes quantités de glace que perd actuellement le pôle Sud. Et cette quantité de glace, bien sûr, amène de l'eau douce à la mer qui fait monter le niveau.
Niveau des eaux, oui, des eaux. Oui.
Donc la mer est vraiment le réceptacle, le plus fort réceptacle de la dérégulation climatique.
Alors on va revenir justement avec vous à la fois en Antarctique, en Arctique, ces pôles nord, ces pôles sud que vous avez traversés, les terrains que vous avez explorés, ce que vous ont enseigné ces lieux d'observation et puis surtout les distinguos entre l'Arctique et l'Antarctique parce qu'on a parfois des idées reçues, on connaît mal hein, ces deux pôles et vous allez nous aiguiller sur le sujet. Jean-Louis Etienne, vous qui publiez Pôle Nord, Pôle Sud justement, aux éditions Bayard. Ce sera en librairie mercredi prochain. A tout de suite sur Europe 1. N'hésitez pas à nous contacter avec Julie.
Au 3921.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Pôle Nord, Pôle Sud, que nous enseignent ces terrains d'observation si différents. On en parle jusqu'à 11h avec quelqu'un qui les connaît bien à l'épaule, Jean-Louis Etienne, invité de Wendy Bouchard.
Oui, et qui publie aux éditions Bayard ce livre, justement, Pôle Nord, Pôle Sud, ce sera mercredi. Je précise aux parents qui nous écoutent que vous avez aussi sorti il y a quelques semaines aux éditions Plume de Carotte, c'est joli, L'Enfant qui marche. L'Enfant qui marche, c'est vous ?
C'est une biographie, effectivement, ouais. Depuis l'enfance, effectivement. Et je me rends compte qu'effectivement, la marche a guidé mes pas, on peut dire, si je me permets ça. Effectivement, depuis petit, je marche. C'est un outil de liberté formidable, la marche.
Vous marchez, vous découvrez, votre vie est quand même assez étonnante. Je vous le renvoie aux biographies de Jean-Louis Etienne, mais rien ne vous prédestinait comme ça à devenir médecin biologiste puis grand aventurier, si ce n'est cette curiosité et ce goût de tout, justement, de la vie, de dépasser et de comprendre l'alchimie aussi qui nous réunit. Vous dites d'ailleurs que l'aventure est une passerelle formidable entre la science, les sciences que vous connaissez, oui. Et nous, public.
Oui, j'ai débuté mes projets pédagogiques il y a assez longtemps, au début, avec Edutel. Attendez, c'est vraiment très ancien, c'était le Minitel de l'éducation.
Edutel, ah oui.
C'était le Minitel de l'éducation nationale, c'est vieux. Et je trouvais que c'était un outil extraordinaire et partager l'aventure. L'aventure, c'est attractif, on peut raconter une histoire et derrière, passer de l'information scientifique et des fois un peu complexe, difficile à comprendre. Et donc, les aventures, même toutes les aventures, les scientifiques du CNRS, d'IFREMER et autres grandes institutions partent sur le terrain, sont de véritables aventures. Oui. Et c'est intéressant de les partager. Il faut être médiateur de la science aujourd'hui pour la faire comprendre, parce que c'est complexe.
Complètement. Tout à l'heure, vous avez évoqué votre expédition dans l'Antarctique 1989-1990. Voilà comment Christophe Ondelâtre sur Europe 1 racontait cette mission. C'était avec vous l'été dernier sur Europe. Écoutez.
Il s'agit de traverser l'Antarctique en traîneau à chien, en passant pile par le pôle Sud. Si tout va bien, il y en a pour 6 mois minimum, peut-être 7. C'est grand, l'Antarctique. 28 fois la France. En hiver, ça peut descendre à moins 80 degrés. Facile. Avec des vents à 300 km/h. C'est pas de la tarte, la traversée de l'Antarctique. Même en traîneau à chien. Alors les chiens, justement, il serait peut-être temps de les descendre de cet avion. Ils doivent piaffer, là-haut. Ça aime la neige, ces bêtes-là. Il y a 40 chiens pour 6 bonhommes. Des malamutes, puissants, avec un peu plus de sang de loup dans leurs veines que la moyenne des autres chiens. Il faut savoir les tenir. Et ça tombe bien, Jean-Louis Etienne va faire équipe avec un Américain de 44 ans, Will Steger, qui, lui, connaît bien les chiens.
Ah, on est avec vous, hein, Jean-Louis Etienne, dans l'Antarctique. Quelle image vous arrive là, à l'instant précis en tête quand vous entendez ce récit de Christophe Ondelâtre ?
On partait pour cette immense traversée, la plus grande traversée de l'Antarctique. C'était en 89, donc c'est une expédition internationale. Il y avait un Chinois de Chine populaire, un Russe qui était encore soviétique quand on est parti. C'est en 89,
chose, ouais.
Il est arrivé russe. Un Japonais, un Anglais, et moi. Et on avait cette idée-là d'être les ambassadeurs du traité de l'Antarctique. On parle du continent du pôle sud depuis tout à l'heure. C'est un immense continent qui est géré par un traité formidable, qui est le traité pour l'Antarctique, qui fait que cet immense continent, comme vient d'être rappelé, qui est grand comme 28 fois la France, c'est un continent uniquement réservé pour la science.
Ah oui.
Il n'y a pas de territorialité, même si certains pays comme la France, par exemple, revendiquent la Terra d'Eli. Ça appartient à tout le monde. Et en 89, c'était la fin, l'expiration de la première tranche du traité. Et en expédition internationale, notre objectif, c'était d'attirer l'attention du monde sur la reconduction du traité de l'Antarctique.
Et c'est formidable, qui est recouvert de glace à 98%. Quels animaux on croise en Antarctique encore aujourd'hui, Jean-Louis Etienne ?
Rien.
Rien ?
Rien.
Des manchots, non ?
Des manchots.
Alors,
un peu,
oui,
juste ça ?
Non, je dis rien pour provoquer un peu, parce que c'est un immense désert, en fait.
Ah, oui.
Et donc,
désert
la vie,
blanc.
Elle est autour. C'est une vie d'animaux marins. Vous avez des oiseaux, les albatros, vous avez les manchots, vous avez des phoques, vous avez... Mais tout ça,
c'est
sont
un désert
des animaux
de glace.
Qui vivent de la mer, si vous voulez, et qui viennent à terre pour se reproduire et qui repartent en mer. Vous voyez, on n'a pas l'habitude d'imaginer ça, mais un albatros, par exemple,
oui.
C'est un animal, un oiseau marin. Eh bien, quand il naît, l'albatros, il va partir en mer. Et il ne reviendra à terre que 8 à 10 ans plus tard, à la maturité sexuelle. Ils vivent en mer. On a du mal à imaginer que ces oiseaux, nous on voit les oiseaux qui se posent, en mer, ils profitent sans arrêt de la houle et du vent et ils vivent en mer.
Mais ils vivent avec des conditions si éprouvantes. L'Antarctique, il fait presque plus froid qu'en Arctique, en Antarctique.
Oui, alors cette température qui est annoncée, effectivement, elle a été mesurée, moins 89, au cœur de l'Antarctique en hiver.
Ouais.
Là, il y a des hommes qui vivent dans des stations. La France a la Terra d'Eli, la station Dumont-Durville. On parlait de 300 km/h et c'est vrai, ce sont ce qu'on appelle des vents de gravité. C'est-à-dire, on sait tous que l'air froid est plus lourd, descend
ça,
et l'air froid va descendre sur la calotte polaire et s'accélérer, et à la périphérie, des fois, atteindre 200, 150 km/h. Donc, ce sont des vents exceptionnels. Là, il faut rester enfermé, on ne peut rien faire, on ne peut pas sortir. Et cette température de 89, c'est au cœur de l'Antarctique en hiver. Le cœur de l'Antarctique, c'est à 3500 mètres d'altitude. Donc, c'est vrai, ce sont des... Mais pour vous donner une valeur moyenne...
Parce que c'est très montagneux, c'est très volcanique
aussi.
Oui,
il y a des volcans, il y a un volcan, surtout encore en activité, l'Erebus. Mais le pôle sud, où il y a la station américaine, c'est à 2800 mètres d'altitude.
Ah, quand même,
donc, on
imagine
sait tous
pas
que
ça.
Quand on monte en altitude, il fait plus froid.
Ouais, c'est fou, hein. Et vous avez vécu quelle température en Antarctique lors de
le plus froid que j'ai connu, c'est moins 49 sous la tente. Là, à cet endroit où on mesure les plus basses températures de la planète, parce que c'est à 3500 mètres d'altitude.
Oui.
Mais vous savez, c'est une question d'équipement, c'est une question de désir. Il faut en avoir envie. Quand on marche, quand on avance avec ses chiens, comme tout le monde sait, quand on fait un effort, on n'a pas froid. Ça se complique des fois sous la tente, effectivement. À l'arrêt, c'est là qu'on perçoit les plus basses températures.
De l'Antarctique à l'Arctique, on voyage vraiment avec vous sur Europe 1 jusqu'à 11h, Jean-Louis Etienne, c'est passionnant. Je donnerai la parole à Christine qui nous appelle, qui vous écoute au 39-21. Et on va parler donc aussi de ce que vous avez vu, perçu, mesuré en Arctique il y a quelques années, Jean-Louis Etienne, avant d'évoquer votre future exploration avec Polarpod dans l'océan Austral. À tout de suite.
Austral, ça fait deux fois que vous dites
Austral. Ah, Astral. Mais non, parce que je suis encore dans le Nouvel An chinois.
Voilà.
Et l'astrologie. Pardon. Décidément. On boucle la boucle.
Ça me plairait bien une expédition astrale.
Bon, je vais mettre un astrologue en ligne. On en a très bien. À tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
On retrouve Wendy Bouchard et son invité Jean-Louis Etienne, médecin, grand aventurier et amoureux des pôles, l'Arctique et l'Antarctique qu'il a tant sillonné. Il est l'auteur de ce livre, Pôle Nord, Pôle Sud, et qui paraît chez Bayard.
Oui, ce sera mercredi, le 13 février. Vraiment, on vous encourage à revenir. Ce sont des conférences aussi qui ont été retranscrites et on est vraiment dans votre peau et dans vos pas. Jean-Louis Etienne, l'homme qui marche, voilà, après l'enfant qui marche aux éditions Plume de Carotte pour les parents qui nous écoutent et pour les enfants qui voudraient lire vos aventures. Alors, on était en Antarctique il y a quelques instants. On va faire l'aller-retour en vitesse très très rapide pour se retrouver maintenant en Arctique. Alors, c'est le pôle Nord en Arctique et là, pour le coup, on trouve beaucoup plus d'espèces animales, déjà.
Oui, il y a beaucoup d'espèces animales. Donc on est, et là, c'est pareil. Les espèces animales sont essentiellement sur Terre et vont se nourrir en mer. Là, bien sûr, il y a le grand mammifère qui est l'ours, qui est le symbole, effectivement, de l'Arctique.
Les ours polaires.
Magnifiques bêtes.
On avait croisé.
Oui, c'est impressionnant, quoi. C'est magnifique, en plus, quoi. Puis c'est majestueux, puis ça a une façon de se déplacer lentement, comme ça, sa grande carcasse blanche. Et puis, il est...
Grand nageur.
Mais alors, sa principale nourriture, c'est le phoque. Ah. 80% des repas, c'est du phoque.
Ah oui.
Mais à la nage, l'ours ne peut pas attraper le phoque. Donc, le phoque est un mammifère, comme tous les mammifères, qui respire. Le phoque, il chasse sous la banquise pour manger des morues, des choses comme ça. Mais le phoque, il sort par un petit trou, on appelle la glou, pour respirer.
Oui.
Il souffle comme ça, il inspire et il replonge. Et l'ours, il connaît le terrain et il sait où le phoque va venir respirer.
Et il l'attend là.
Donc l'ours, il est assis, il n'a pas froid, il a le temps. Et dès que le phoque vient respirer, clac, avec ses griffes, il le prend. Il l'amène sur terre. Et là, par contre, c'est le contraire. C'est-à-dire, le phoque sur terre... Il va pas vite, quoi. Et l'ours, tac, 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 et c'est là qu'il l'attrape. Donc, tout ça pour illustrer le fait qu'aussi que l'ours, la survie de l'ours dépend de la banquise. Vous voyez, son terrain de chasse, c'est la banquise. Et on voit bien qu'avec le réchauffement climatique, il y a une diminution et de la surface et de l'épaisseur de la banquise.
Autant personne ne vient en Antarctique, si ce n'est ces centres, ces scientifiques du monde entier, autant en Arctique, on trouve encore des peuples indigènes, Jean-Louis Etienne, que vous avez aussi croisé, les Inuits, les Lapons. L'Arctique qui est géré par un conseil de l'Arctique, contrairement au traité de l'Antarctique, on va revenir, conseil de l'Arctique qui inclut les pays qui bordent l'Arctique, c'est ça?
C'est une réunion des pays de la circonférence polaire, donc l'immense Russie, puis le nord de l'Europe, vous avez la Finlande, vous avez la Norvège, le Danemark avec le Groenland et le Grand Canada et puis l'Alaska. Et donc, ce sont tous ces pays qui entourent l'océan Arctique qui sont les membres actifs donc, du Conseil.
Voilà ce que vous écrivez dans ce livre, Pôle Nord, Pôle Sud. Au Pôle Nord, il n'y a rien parce que la glace bouge. La banquise fond l'été et elle est poussée par des courants. Quand elle se brise et qu'il fait moins 40 degrés, un rideau de vapeur monte car l'eau est plus chaude que l'air. Quand vous marchez vers le Pôle Nord, vous voyez parfois ces rideaux de fumée qu'il vaut mieux éviter parce qu'ils peuvent s'écarter et créer un chenal d'eau. Il faudra alors attendre que l'eau regèle pour passer dessus. Là, on est vraiment... on marche aussi à tâtons.
On marche à tâtons, oui, donc... Quand la banquise, elle bouge, comme vous l'avez évoqué, ça dérive. Ça bouge sans arrêt, ça se casse de temps en temps. Il y a une sorte de fleuve qui apparaît, donc la glace est cassée. On en voit la mer tout de suite et la mer gèle quand il fait très très froid. Et des fois, il faut attendre que ça se regèle assez vite quand il fait moins 40. Et là, la glace de mer, c'est de la saumure, elle est flexible, elle est pâteuse, quoi. Et donc, vous marchez, puis ça commence à faire un peu de trampoline. Et là, on dit hop, 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 hop. Donc, Donc c'est un apprentissage. C'est un apprentissage permanent. Et ça bouge sans arrêt, si bien qu'il n'y a rien au pôle Nord. Il n'y a pas un panneau, ici, le pôle Nord. Parce qu'en fait, le premier qui aurait été au pôle Nord, c'est Peary, l'Américain. Il a planté le drapeau américain, fait la photo. Mais le lendemain, le drapeau n'était plus au pôle Nord parce que la banquise
avait dérivé.
Donc c'est difficile, on ne peut pas marquer son passage.
Ça veut dire qu'il est plus risqué de faire des expéditions au pôle Nord qu'au pôle Sud pour ces raisons-là.
C'est un terrain dangereux. Si vous passez à travers la glace, vous avez peu de chances de vous en sortir parce que c'est une glace qui est malléable, pâteuse, et vous appuyez comme ça, puis vous avez très très froid très vite. Quoi.
Ouais, donc, chien de traîneau au sud et au pôle Nord, comment
sud,
on fait
y a, alors ça, c'est les chiens de traîneau, mais c'est compliqué. L'Américain que j'ai croisé en allant au pôle Nord, et nous avons décidé tous les deux d'aller après au pôle Sud, il était avec des chiens, et c'est un énorme travail pour les hommes, mais surtout aussi pour les chiens
pour sentir,
parce que c'est très chaotique, c'est très accidenté, il y a des murs de glace comme ça qu'il faut passer, C'est une sacrée aventure, le pôle Nord avec des chiens.
Quelle aventure. Merci de la partager avec les auditeurs d'Europe 1, notamment Christine qui est à votre écoute. Bonjour Christine.
Oui, bonjour.
Alors on y est, au pôle Nord et au pôle Sud ce matin avec Jean-Louis Etienne.
C'est un vrai bonheur d'entendre tout ça. On voyage alors qu'on ne quitte pas la grisaille parisienne.
Oui, mais vous connaissez un peu les pays du Nord. Je ne sais pas si vous êtes allé jusqu'au pôle Nord.
Ma question était la suivante, c'était vraiment de la curiosité, une question que je me pose maintenant depuis 25 ans. Mon mari était pêcheur, donc il m'avait invité au mois de juillet d'aller le rejoindre en Norvège.
Oui.
J'ai dit oui tout de suite. Et donc on est allé jusqu'au cercle polaire.
Oui.
Donc c'était pas le pôle Nord, c'est le cercle polaire. Et là, j'ai eu une déception épouvantable parce que tout était gris, couvert d'une espèce de suie noire. Et je me suis toujours demandé si c'était logique. On était au mois de juillet, donc c'est la période chaude. Et je me suis toujours demandé si c'était normal que ce soit aussi sale. Parce que que moi j'imaginais ça blanc,
du blanc immaculé. Immaculé, ouais.
Mais bien sûr, avec toutes les photos qu'on a en tête, avec ce bleu un peu acier et tout.
Mais qu'est-ce
et
qui était déception... Pardon, Christine, mais qu'est-ce qui était sale?
Qu'est-ce qui était noir?
Alors, qu'est-ce qui était noir? C'était la glace.
D'accord.
La glace, c'est comme s'il y avait eu un feu et que toute la suie était dispersée sur cette glace.
Alors, en général, la banquise, si vous voulez, donc la glace de mer, sous la banquise poussent des algues. Ouais. Et de temps en temps, ces plaques de glace se renversent et on voit effectivement, mais c'est jamais très noir, c'est sombre, ça peut être rouge par moment ou rose, ça peut être vert. Mais
c'est pas de la pollution en tout cas pour répondre à Christine.
C'était sur des grandes étendues ou alors
Ah oui, sur des grandes étendues. Tout le village, je me rappelle plus du nom. Hein.
Ah bon, mais d'accord. Non, mais vous voulez.
Oui, il y avait le poisson et il y avait du poisson salé là qui pendait sur leur fil. Il y avait un petit peu de vie, donc
oui,
il y avait deux, trois maisons.
Oui, on va dire que c'est sur la terre, alors sur la neige, effectivement, l'activité qui fait que c'est... Sinon, la glace de mer, elle est blanche encore. Ça ne veut pas dire qu'elle est pure,
oui.
Parce qu'aujourd'hui, mais on se rend compte qu'il y a une pollution microscopique, des suies, par exemple, qui tombent. On ne la voit pas, si vous voulez, ce sont une pigmentation que l'on ne voit pas. L'eau est aussi polluée, malheureusement. Effectivement, quand on voit cette eau pure, ça paraît merveilleux. Mais il y a une pollution qui vient des grands fleuves qui se jettent dans le... Là. Et aujourd'hui, il y a une pollution. Si bien que les mamans qui ne sont plus, qui allaitent leur bébé au Groenland, par exemple, elles ne mangent plus de poissons de mer, de phoques, des choses comme ça, parce qu'effectivement, ils sont eux-mêmes
pollués.
La graisse, parce ouais. que les polluants se stockent dans les graisses. Et donc, ces Inuits, ces personnes qui mangent essentiellement des choses graisseuses, ne mangent plus pendant la période d'allaitement de phoque.
Du pôle Nord au pôle Sud, il nous en parle, Jean-Louis Etienne. Merci Christine, voilà pour cette évocation. Bon, le cercle polaire vous a déçu il y a 20 ans, mais on vous encourage à y retourner. Hein, c'est ça, Jean-Louis Etienne, voilà. Vous qui avez traversé, Jean-Louis, repartons en Antarctique, entraînons en chien entre 1989 et 1990. 6000 km de glace, 7 mois d'expédition, la plus grande traversée dans l'Antarctique jamais réalisée. Et vous mettez toujours ces découvertes à profit. On va parler dans un instant de ce fameux Polar Pod, autre grande mission magistrale qui s'annonce et que vous pourrez partager avec notre invité. Jusqu'à 11h, nous sommes ensemble sur Europe 1 et on est bien.
Et on retrouve Jean-Louis Etienne, l'invité de Wendy Bouchard, une vie au service de la science et de l'exploration.
Et nous étions avec Christine il y a un instant qui est partie du côté du cercle polaire arctique. Vous avez vu aussi ces contrées, Julie
C'est plus au nord.
Plus au nord encore,
oui.
Ou ça?
Oui, au Spitsberg, au Svalbard. Enfin,
oui,
ça ressemble à quoi, le Spitsberg, Jean-Louis Etienne?
Ben, c'est une grande île qui est recouverte de neige, de glaciers.
Oui.
Elle a un statut intéressant, c'est qu'elle est gérée par le traité de Versailles, signé en 1920. Ça veut dire que...
Ah, oui.
La France a signé ce traité de Versailles et on peut aller, si on veut, s'installer au Spitsberg. Les citoyens des pays signataires, c'est un endroit où il n'y a pas de visa, rien du tout. Vous pouvez y aller. C'est géré par la Norvège et c'est un territoire ouvert.
Effectivement, il y a des tas de populations qui habitent parce que là où il y a des villes, des petites villes, on voit un bâtiment chinois, un bâtiment anglais, un bâtiment.
Surtout Agnès-Sous.
Avec les drapeaux, ils mettent leurs drapeaux sur l'escalier de leur maison.
C'est une station scientifique où la France est présente aussi.
Mais ça veut dire que les pôles sont devenus quand même aussi des destinations touristiques. On voit un certain nombre d'expéditions touristiques avec des bateaux, notamment. Bon, il y a les bateaux ponants. Alors c'est très, très luxueux ce genre de croisière. Mais de plus en plus, on peut aller donc en Arctique et en Antarctique.
Oui, il y a deux choses. C'est effectivement, d'abord, le tourisme se développe. Le nombre de bateaux qui se construisent, c'est absolument incroyable.
Il y a des bateaux beaucoup moins luxueux que Ponant. Hein. Les compagnies norvégiennes.
Il y a des zones qui se ferment au tourisme, si vous voulez. Hein, des zones qui sont dangereuses, etc., qui sont de plus en plus fermées au tourisme. Et donc, il y a des zones comme ça, pacifiques, qui s'ouvrent et qui sont très fréquentées. Ouais.
Et alors, sur ces gros bateaux, on traque l'ours blanc, évidemment. Alors, on est tous avec des jumelles sur le pont quand le capitaine nous annonce « Attention, ours blanc !»
Et vous voyez la banquise fondre ?
Ah ben là, parce qu'on quitte le gros bateau avec des zodiacs, il y a des expéditions où on nous amène au pied de ces glaciers qui sont des murs de glace énormes, très hauts. Mais on n'approche pas trop parce qu'en permanence, des blocs de glace se détachent et tombent dans l'eau, dans la mer. Alors, ça fait des grandes gerbes d'eau, c'est dangereux de s'approcher, évidemment, mais ce qui prouve que ça fond en permanence. Quoi.
Oui,
ça, alors, ça, ce sont des blocs qui se détachent véritablement du glacier.
Ça, c'est le réchauffement climatique ou pas que...
Non, non, c'est une avance normale des glaciers, parce que les glaciers, tous les glaciers descendent sous leur poids, si vous voulez, et régulièrement se cassent, s'effondrent et tombent à la mer.
Ah, d'accord.
Et c'est très spectaculaire. Mmh. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est l'accélération de ce phénomène.
Oui, c'est bien voilà, que vous donniez aussi le fruit de vos explorations et l'argument scientifique de tout cela.
Il y a au Spitzberg,
Julie.
La ville la plus septentrionale du monde où on est allé d'ailleurs.
La ville la plus au nord du monde, plus au nord que la
dernière ville du Groenland, par exemple.
Et qui s'appelle
Nyalesund, c'est une ville. C'est un village de stations scientifiques où la France a aussi une station.
Exactement. Alors là, on va changer de pôle et on va aller du côté de l'océan, non pas astral, mais austral, avec PolarPod. Alors, à quoi ressemble ce projet, Jean-Louis Etienne, que vous travaillez maintenant depuis presque une dizaine d'années, PolarPod ?
Là, on parle de l'océan austral.
Oui.
Il y a l'hémisphère boréal, les aurores boréales au nord, et l'hémisphère austral, l'Australie, entre guillemets, qui est l'hémisphère sud. L'Antarctique, on vient de l'évoquer, c'est un immense continent, grand comme tu vois la France, et tout autour, il y a un océan qui tourne. Le courant circumpolaire Antarctique. C'est un immense courant qui fait le tour, que les marins appellent les 50e hurlant, rugissant, etc.
Ah, c'est ça,
ce sont des zones assez ventées. Et cet immense océan qui fait quand même 22 000 km de circonférence, c'est géant. Toutes les publications se terminent. On a besoin de mesurer in situ. Ça veut dire qu'on a besoin d'y aller, malgré les satellites et d'autres appareils. On a besoin d'y aller et sur des longues périodes de temps. Et donc, comment séjourner sur un océan de tempête ? Quel type de vaisseau on peut faire ? Et donc, le plus logique, c'est de ne... Les bateaux sont posés sur la surface, donc ils sont agités, effectivement. Donc, il faut avoir une espèce de grand flotteur, un tube, un flotteur, on va dire, qui fait 100 mètres de haut. Donc, 80 ou 75 mètres sont sous l'eau. Et donc, vous êtes pris dans des eaux stables, vous n'êtes plus posé sur les vagues. Et à la surface, avoir très peu de surface d'impact. Donc, c'est un grand flotteur, un grand tube qui fait 100 mètres, qui pèse 1000 tonnes. On n'habite pas sous l'eau, c'est le flotteur qui est sous l'eau. Et on habite dans une nacelle à une dizaine de mètres au-dessus de l'eau.
Et qui va donc vous permettre de dériver comme un flotteur, comme un bouchon.
Un gros bouchon qui va dériver avec le courant. On est totalement autonome en énergie.
Ah, oui.
Le moteur, c'est le courant circumpolaire qui nous entraîne. Il y a du vent, donc on va faire toute notre électricité avec 6 éoliennes. On est totalement autonome, on est zéro émission. Et on va mesurer surtout ce qu'on appelle les échanges entre l'atmosphère, entre l'air et l'océan. Parce que cet immense océan d'eau froide est ce qu'on appelle un puits de carbone. Ça veut dire que le gaz carbonique dont on parle depuis tout à l'heure, qui est responsable du réchauffement climatique, ce CO2, se dissout dans les eaux froides. Vous voyez ? Et donc cet immense océan est donc le principal puits de carbone océanique de la planète, dont on ne connaît pas la performance. Quel est son rôle ?
C'est-à-dire, pardon Jean-Louis, que grâce à lui, le réchauffement est moins important qu'il pourrait être.
Oui, c'est un régulateur du climat, et donc il absorbe beaucoup de gaz carbonique. Quelle est sa performance sur la durée, aux quatre saisons ? Ça, on ne le sait pas, c'est la raison pour laquelle la communauté scientifique est attentive à cette mesure qui va se faire sur 2 ans. Ça va durer 2 ans, avec le courant qui nous amène. Donc, on m'a mesuré ce rôle-là du CO2. Et deuxièmement, une chose intéressante, c'est qu'à 80 mètres sous l'eau, il y a le silence. Et donc, on va mettre des hydrophones, donc des micros sous l'eau, et on va écouter, et on va faire un inventaire de la faune par acoustique. Parce qu'on connaît le cri des baleines, on connaît les manchots, on connaît ce qu'on appelle la signature sonore de chaque espèce. Et par une écoute passive, on va faire un inventaire où vont les animaux en hiver, etc. Donc, on aura en permanence cette écoute.
C'est-à-dire que lorsqu'on parle de pollution acoustique, de plus en plus cette pollution sonore dans les océans, l'océan astral est encore vierge de cette pollution-là.
C'est loin, on est loin, il n'y a pas de route maritime régulière. Et puis nous n'avons pas de moteur, donc on va être vraiment une référence, à part les vibrations, mais on va être une référence de silence, on va dire, en mer. Oui.
PolarPod, qui sera opérationnel quand ?
Le départ est prévu en octobre 2021, avec une construction qui devrait commencer à la fin de l'année. Là.
Voilà, pour l'instant, c'est à l'étude.
Les études sont faites.
Là, vous avez une maquette qui est...
Maquettes. Alors, si vous voyez les exigences que nous... On a ce qu'on appelle le Bureau Veritas, qui certifie, si vous voulez, la bonne tenue du vaisseau, nous a demandé d'affronter la vague cinquantennale, c'est-à-dire la plus grosse vague statistique pendant 50 ans. Elle fait 31 mètres de haut. Et elle arrive toutes les 18 secondes. Bon, c'est une vague statistique, ça ne veut pas dire qu'on va la rencontrer, mais si jamais...
Si jamais, vous êtes prêt à affronter une vague de 31 mètres ?
Oui, on a fait des maquettes, on a simulé la grande vague dans des bassins à vagues à Ifremer, à Brest. Donc, on est prêt.
Eh bien, voilà, PolarPod, l'une de vos prochaines expéditions, Jean-Louis Etienne, vous qui nous parlez de tout ce que vous avez vu et de cette empreinte aussi du climat, du réchauffement climatique sur ces différents pôles. On fait encore le tour de la question jusqu'à 11h. N'hésitez pas à témoigner au 3921 si vous le souhaitez. On vous donne la parole avec Julie.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
La suite du tour de la question avec Wendy Bouchard et son invité. Nous accueillons Jean-Louis Etienne qui nous présente son dernier livre « Pôle Nord, Pôle Sud » qui sort la semaine prochaine aux éditions Bayard, ainsi que son projet d'exploration de l'océan austral, PolarPod.
Pôle Nord, Pôle Sud ou l'océan austral, vous questionnez à chaque fois le rôle de ces étendues sur l'équilibre climatique avec PolarPod qui devrait être opérationnel en octobre 2021 dans cet océan. Mission internationale, 12 pays représentés à bord de ce bouchon flottant, quasiment 3 marins, 4 ingénieurs, vous et un autre explorateur, vous vous relayerez tous les deux mois. Jean-Louis Etienne, ça c'est quelque chose qui doit créer chez vous une excitation, une adrénaline incroyable. Voilà. C'est un autre grand défi qui s'annonce.
C'est une adrénaline chronique puisque ça fait 8 ans que je travaille dessus. J'ai commencé aux États-Unis parce qu'il y a un bateau qui nous a inspiré qui s'appelle le Flip américain qui a été construit pour écouter les sous-marins dans le Pacifique. Donc je parlais d'acoustique, ce sont des navires qui sont tout à fait adaptés pour ça. Et c'est un projet qui est une cathédrale pour moi. C'est vraiment un projet qui est extraordinaire. Ça va être une ambassade de l'audace technologique et scientifique française. C'est comme ça que François Delattre, qui était ambassadeur de France à Washington quand j'étais aux États-Unis, m'avait dit « Mais c'est absolument génial, on va en faire une ambassade de l'audace technologique et scientifique française. » Et donc, il m'a ouvert à toutes les universités américaines. C'est comme ça que j'ai commencé le projet avec MIT, Georgia Tech, Caltech. Et donc, ce projet est né là. Et puis, je suis revenu en France avec tout ça. Et donc, on en a fait aujourd'hui un grand projet avec toutes les grandes institutions françaises.
Oui, vous avez été pionnier.
L'IFREMER, CNRS, ouais. L'INSU, le CNES, en fait, toutes ces grandes institutions qui sont parties prenantes.
Ce bateau vertical qui va donc dériver, qui va devoir affronter des éléments, peut-être cette vague de 30 mètres, on ne vous le souhaite pas, mais en tout cas, vous êtes prêt à l'affronter. Éventuellement, être prisonnier des glaces, ça pourra vous arriver?
Non, pas là. Non, pas là, et même on est manœuvrant, c'est-à-dire on a l'obligation d'être manœuvrant. On va dériver entre 50 et 55 sud, ce qu'on appelle les 50e hurlants, si vous voulez, c'est une zone ventée. Et il peut se faire qu'on ait une dérive qui nous rapproche d'un iceberg énorme, mais on va le voir parce qu'on se déplace lentement. On peut se déplacer avec le vent, on a des voiles asymétriques qui nous permettent de nous déplacer et éventuellement un moteur pour se déplacer. Mais tout ça se fait extrêmement lentement, jamais on doit le faire.
La science est toujours au service de l'observation de la nature. Jean-Louis Etienne, vous qui êtes médecin biologiste de formation, toutes les problématiques aussi d'adaptation de l'homme aux conditions parfois extrêmes vous préoccupent aussi l'homme dans un environnement.
Il y a une valeur devant laquelle nous sommes tous égaux. Quand je dis tous les humains du monde entier, quel que soit le pays d'origine, la couleur, etc., c'est la température du corps.
Oui.
On a tous 37 et on ne peut pas y échapper. On voit 37,8, c'est un degré de plus, c'est ce qu'a la Terre aujourd'hui, vous voyez ? Un degré de plus.
Oui, déjà, 38, on le ressent.
Oui. On le ressent. Oui. C'est le début des complications, si vous voulez. Et donc, l'humain ne peut pas doit conserver ce capital thermique. On est condamné à vivre à 37, donc il faut se nourrir et se vêtir. Une chose que j'ai constatée en allant au pôle Nord, ça c'était en 86, c'est que pendant 2 mois, j'ai connu des températures négatives et la température de mon corps était 35,5.
Oh là là, ouais.
C'est intéressant parce que ça permet de voir que notre corps a quand même des capacités d'adaptation. Et au lieu de demander à manger, à porter des calories pour rester à 37, le corps a baissé naturellement le thermostat jusqu'à 35,5, ce qui représente une économie d'énergie intéressante.
Je voudrais vous faire réagir au propos d'un autre aventurier qu'on a reçu il y a quelques semaines, Julie, Christian Clot, et qui lui travaille sur les voyageurs de l'extrême. Il montre comment le physique, comment le mental peuvent évoluer dans des situations. Je pense que vous le connaissez.
Oui.
Et il a fait des expéditions beaucoup en solitaire. Et il monte aussi des expéditions collectives pour nous faire prendre conscience qu'ensemble aussi, on peut être fort. Je voudrais que vous l'écoutiez, Christian Clot, et vous réagissez.
Je suis intimement persuadé qu'un collectif, quand il décide de travailler ensemble, il a des solutions à tout. Mmh. Et on l'a montré dans l'histoire de l'humain, on a montré dans l'histoire de notre évolution qu'à chaque fois qu'il y a eu des grands problèmes dans l'histoire, l'humain finalement a su se mettre en collaboration pour créer quelque chose de positif et continuer la route vers le futur. Aujourd'hui, on a des énormes défis devant nous, ça c'est vrai, et on a beaucoup de pessimisme par rapport à ça. Mais une chose qui est sûre, c'est que le pessimisme ne résout rien. Donc on doit recréer la capacité collective d'avoir envie de construire notre futur et si possible de le faire en protégeant tout ce qu'on a autour de nous.
C'est le sens de toutes ces missions internationales que vous menez aussi, Jean-Louis Etienne.
L'homme est un mutant surdoué. Ouais. Il invente des choses remarquables. Je dirais que s'il mettait son intelligence relationnelle au niveau de son intelligence technologique, le monde serait en paix depuis longtemps.
Affronter des conditions extrêmes pour comprendre justement ses limites, comme le fait Christian Clot, vous l'avez vécu, évidemment, on se souvient de vous dans votre anorak rouge, bravant ce froid de folie, moins 52 degrés, vous nous parliez de cette température du corps qui baisse, mais ça vous a appris des choses sur vous aussi ?
Ah mais bien sûr, surtout l'engagement solitaire, c'est intense. C'est intense et on est confronté à une idée. L'idée, elle est ici. Ici, on dit, je vais aller au pôle Nord, c'était mon Himalaya, moi, c'était mon Cap Horn, mon Everest. Et je me dis, le pôle Nord, c'est quelque chose que je peux faire. Donc, on le construit ici. Et tout d'un coup, il y a la réalité qui vous tombe dessus. Quand le petit avion sur ski vous pose au nord du Canada, sur cet océan, il fait moins 48, il y a une espèce de truc qui vous tombe dessus. Il dit, là, j'ai inventé quelque chose qui me dépasse. Et on doit de nouveau être en relation avec soi, s'apprivoiser soi-même.
Vous parlez de l'Himalaya, on vient de trouver une dépêche que Manuel m'a remise. Les deux tiers des glaciers de l'Himalaya pourraient fondre d'ici 2100. Voilà aussi cette problématique.
Non mais c'est un gros problème, parce que 2 milliards de personnes vivent de l'eau qui vient de l'Himalaya.
Vous parliez de votre température qui était descendue à 35,5, ouais. Mais il y a des effets secondaires à une telle baisse de température, je ne sais pas, de la fatigue ou...
Non,
moi, je
ne
pensais pas
tout.
Qu'on pouvait survivre à 35,5.
Ben, normalement, non. Si on
est
met à 35,5,
quand même,
à tous les trois, là,
grave,
non,
oui.
On est dans un coma.
D'accord. Mais alors, les effets secondaires, c'était quoi ?
Il n'y en a aucun. C'est une adaptation progressive. C'est exactement comme quand vous montez en Himalaya en altitude, quand vous vivez en camp de base à 5000 mètres et que vous êtes pendant 2 mois, par exemple, entre 5000 et 8000, vous avez tout le corps qui s'habitue à ce qu'on appelle l'hypoxie, c'est-à-dire le manque d'oxygène.
Oui.
Et vous revenez, vous êtes en forme, si vous voulez. Ce sont des transformations... des petites transformations que l'on ne perçoit pas.
Donc, c'est-à-dire que dans des conditions extrêmes, votre corps peut baisser à 35,5 et vous n'en mourrez pas, alors que dans d'autres considérations...
À 35,5, on ne meurt pas, mais on a une viscosité mentale quand même. On n'est pas tout à fait frais.
Oui. Alors que vous avez gardé cette énergie
et cette
lucidité.
Parce que ça s'est fait progressivement. Et c'est intéressant de voir comme le corps a des capacités d'adaptation que l'on ignore et qui sont spontanées, si vous voulez. Comme on fait de l'immunité en rencontrant le microbe, on se prémunit. Vous voyez, le corps a une plasticité importante.
Ce que nous disait Christian Clot, vous vous souvenez, ça avait été aussi notamment son rapport à l'humidité extrême dans la forêt tropicale. Voilà,
qui est intéressant dans des projets comme ça, et comme dans tous les projets, il faut, quand on a une idée forte comme ça qui vous tient, parce qu'aller au pôle Nord, il faut en avoir vraiment envie, vous voyez. et quand on a une idée comme ça, ou le Polar Pod ou autre, ça ne va pas dire que c'est parce que vous y tenez que ça va être facile, au sens où on me dit, mais vous avez la passion, etc. Mais la passion, c'est comme les bûches. Le feu, si vous ne mettez pas des bûches, ça s'arrête.
Oui.
Et chaque fois qu'on a une idée forte, il y a 3 choses qui se présentent. Il faut y consacrer du temps, du travail, de la persévérance. Rien de que ce que l'on crée qui est grandiose pour soi n'est facile, quoi.
Voilà, belle morale, Jean-Louis Etienne, encore avec nous. 5 minutes sur Europe 1 pour faire le tour de la question, de ces expéditions, cet engouement aussi et la géostratégie des pôles. On peut en parler quelques instants au carrefour de discussions internationales, justement. À tout de suite sur Europe 1 avec Julie.
Europe 1. On retrouve le docteur Jean-Louis Etienne, le plus grand explorateur des pôles qui multiplie les missions, la prochaine dans l'océan austral, mais aussi les conférences, les prises de parole pour sensibiliser à l'environnement. Wendy Bouchard.
On a parlé du rapport aux extrêmes, on a parlé de climat, évidemment, on va venir à la géostratégie des pôles quelques instants, mais je précise la sortie dans quelques semaines d'un autre livre de votre part, Oser l'autonomie. Ce sera aux éditions Ristica. Vous prenez l'autonomie, le fait de se débrouiller seul, de se prendre en main. Ça, c'est votre vie.
C'est ancien, ça.
Ouais.
C'est ancien.
Mais c'est vraiment votre parcours aussi.
Oui, c'est mon parcours. Vous voyez, j'avais 15 ans, je voulais jouer la guitare, j'avais pas un rond, j'ai construit ma guitare.
Ouais.
Oui, c'est parce que j'ai toujours aimé... Je me suis toujours dit que, quoi qu'il advienne, avec mes 10 doigts, je pouvais faire une cabane, avoir des poules, un jardin et voir venir.
Ouais.
Donc cette envie d'autonomie m'a toujours habité.
Ouais. Dans le Beautarn, cette région aussi dont vous êtes originaire et vous habitez encore. Et on parlait pendant la pause de ce fameux vent d'autant. Vous qui connaissez le blizzard, vous connaissez aussi.
J'aime les éléments forts.
Voilà, vous êtes servi. Parlons de la course au pôle, Jean-Louis Etienne, parce qu'il y a un engouement peut-être à double tranchant. Il y a cet engouement scientifique, cet intérêt de ces missions internationales. Et puis, il y a quand même une zone géostratégique et... des enjeux économiques, notamment en Arctique, qui est devenue une terre très convoitée du fait de ses ressources naturelles.
Oui, alors les ressources naturelles sont sur les terres, sur les continents, donc la Russie a les siennes, le Canada, etc., les exploite à sa façon. Et puis il y a aussi les ressources en gaz et en pétrole sous l'océan, offshore. Et ça pose des questions, effectivement, de risque d'exploitation.
Oui. Pour l'instant, c'est un territoire sacré.
Pour le moment, il n'y a
vierge,
pas.
Alors,
oui, mais c'est attribué. C'est attribué, c'est-à-dire la loi internationale, la loi de la mer, vous donne une zone économique exclusive sur 200 000 nautiques, c'est-à-dire presque 400 km au-delà de vos côtes. Mmh. Et donc, il y a tout autour, si vous voulez, des zones très riches en gaz. Il y a Stockman, c'est un réservoir de gaz qui est le deuxième après celui du Qatar. C'est des grandes réserves.
Donc, c'est déjà exploité ?
Non, pas encore, mais c'est russe. Et donc, si vous voulez, l'idée, c'était de faire le traité de l'Arctique. C'était Michel Rocard qui avait eu cette idée. Mais les pays qui sont de la circonférence polaire, ils disent, attendez, ce sont nos histoires,
oui,
ce sont
ça,
nos
quoi.
Affaires. Et donc, il va falloir être extrêmement vigilant sur la façon dont ça va être exploité, les conditions. Parce que vous imaginez une fuite de pétrole sous la banquise. Ça va être une catastrophe. Donc, le gaz est une... Il y a du gaz et du pétrole. Ouais. Le gaz, c'est moins risqué, si vous voulez, que le pétrole. Mais enfin, les compagnies qui se lancent là-dedans, il va falloir qu'elles soient extrêmement vigilantes parce que je pense que s'il y a une fuite de pétrole sous la banquise, ça va être très préjudiciable, et pour l'environnement surtout, et pour la compagnie aussi.
Ça, c'est au pôle Nord. Et pour terminer, au pôle Sud, vous nous parlez de ce traité dans l'Antarctique qui est revu régulièrement.
Oui, enfin, il y a ce qu'on appelle un moratoire, c'est-à-dire on a gelé toutes les revendications, les ambitions économiques jusqu'en 2048. Ah. C'est Michel Rocard qui avait initié ça avec le Premier ministre australien, et c'est formidable. C'est-à-dire un moratoire. Pendant 50 ans, on ne savait pas prendre de décision. Il y a eu cette sagesse de dire on n'y touche pas pendant 50 ans, on n'en a pas besoin, c'est loin, etc. Revoyons-nous plus tard. C'est en 2048 qu'on décidera la reconduction ou pas du traité.
Et bien voilà, vous avez entendu l'ambassadeur des pôles. Vous n'avez pas de titre officiel, mais vous n'en avez pas besoin. Jean-Louis Etienne, merci d'avoir été avec nous pour évoquer toutes ces expéditions. Pôle Nord, Pôle Sud aux éditions Bayard. L'Enfant qui marche aux éditions Plume de Carotte. Et puis l'ensemble de votre œuvre qu'on retrouve aussi régulièrement. Puis on vous suivra pour ce projet Polar Pod. 3 ans d'horizon, on se donnera rendez-vous pour en parler avant. Merci beaucoup,
Wendy,
Jean-Louis.
Merci
beaucoup. Mais à demain, chère Julie. Et merci
à tous. C'était Wendy Bouchard. Dans un instant, Anne Roumanoff sur Europe 1.